Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 2e. L'arrestation. 1. Rouletabille à l'affût. Carnet de Rouletabille. Cet Hubert est un infâme bonhomme. Son attitude au dernier interrogatoire a été telle que j'en ai été comme paralysé. À un moment, je n'y voyais plus goutte, et je ne savais même pas que Jean était derrière moi, à me regarder. Je devais faire une singulière figure. Et puis j'ai repris mes esprits, et j'ai répondu au juge comme il le fallait, pour le moment. C'est alors que je me suis aperçu de la tête que faisait Jean. Quand on eut emmené Hubert et que M. Crousillat, le juge d'instruction, et son inénarrable greffier, M. Bartholas, qui sont littéralement enragés contre moi, eurent quitté le vieil Castounou en claquant les portes, je me suis rapproché de Jean et je lui ai demandé des nouvelles de sa course à Beaucaire. Il m'a répondu en me regardant singulièrement qu'il y avait vu là Rousseau Fiamo et que ce modèle des gardiens n'avait pas quitté ses bêtes pendant toute la période du drame. « Eh bien, fis-je, es-tu toujours aussi persuadé que c'est Hubert qui a fait le coup ?» « Et toi, me répliqua-t-il, es-tu toujours aussi sûr du contraire ?» Je lui ai répondu qu'il était impossible pour le moment d'affirmer ou de nier sa complicité. Alors il me jeta sur un ton d'écœurement peut-être excusable, mais qui tout de même me déchira le cœur. « Enfin, sais-tu oui ou non où est Odette ? Si je le savais, elle serait déjà ici. » Il me regarda presque en ennemi, ferma les poings et se sauva de moi comme d'une personne dont la vue vous est devenue insupportable. Ici, sur le carnet, une demi-douzaine de lignes qui ont été rayées à plusieurs reprises, comme si l'on avait voulu qu'il n'en restât rien. Cependant, sous les surcharges, on peut deviner, plutôt qu'on ne les distingue, trois mots que nous avons déjà relevés sur ce carnet. Chère, petite, Odette. Et puis, tout de suite après ces lignes rayées, la réflexion suivante. J'ai ici beaucoup d'ennemis, mais le plus redoutable vient d'arriver. C'est le soupçon. Le soupçon qui m'a épié d'abord de loin et qui est venu ensuite se planter devant moi, avec ses yeux glacés, ses yeux incapables de refléter, si grands soient-ils ouverts, sur les objets extérieurs autre chose que le soupçon qui les anime. Mais j'en ai vu bien d'autres. Ne nous impressionnons pas, ce n'est pas le moment. Rouletabille pensait avec raison que si Calista devait revenir à la cabane de la vieille Zina pour y rechercher ses vêtements, elle ne pouvait risquer une telle démarche que la nuit. Et voici ce que le carnet rapporte sur cet affût. Il était 10 heures environ lorsque Calista, dans ses habits de bohémienne, parut sur le sentier qui conduisait au repère de la sorcière. Elle était tout à fait reconnaissable malgré ses loques. Elle avait cet air de reine outragée qu'elle prenait souvent à Paris, quand Jean, ou l'un de ses amis, la traitait avec un peu de négligente familiarité. Comme elle se rapprochait du rocher où la Zina a établi sa demeure, elle se retourna brusquement. La lune éclairait alors en plein son visage, qui exprimait une irritation souveraine. Elle dit tout bas « C'est encore toi, Andrea ?» Mais ce fut une silhouette féminine qui apparut sur le sentier. Calista eut un mouvement pour se rejeter dans le fourré, elle n'en eut pas le temps. La nouvelle venue parla, et Calista resta sur place, stupéfaite. Je l'entendis qui murmurait « Madame de Mérin ?» C'était la pieuvre, en effet, qui s'avançait. « Comment êtes-vous ici ?» questionna haletante Calista. « Et que venez-vous y faire ?»« Vous y voir, » répondit Madame de Mérin. « Ah, si vous saviez ce que je vous ai cherché !» C'est Olajaï qui m'a dit que j'aurais quelque chance de vous trouver chez Zina, et il m'a conduite jusqu'ici. « Oh, la jaillit ?» gronda Calista furieuse. « Où est-il ? Il faut que je lui parle. » « Oh, vous ne le trouverez plus en Camargue. Il ne tient pas à s'exposer à votre colère. Mais je lui ai promis de vous calmer. Calista, sommes-nous ou ne sommes-nous pas une bonne paire d'amis ?» À ce moment, elles pénétrèrent chez Zina. Quand elles en ressortirent, 10 minutes plus tard, elles paraissaient tout à fait d'accord. Calista emportait un paquet dans lequel je devinais ses vêtements. Cependant, la bohémienne disait à la pieuvre « Non, ne m'interrogez plus. Nous nous reverrons. Je vous ai dit pour le moment tout ce que je pouvais vous dire. Soyez désormais tranquille, comme je le suis moi-même. Pas plus votre Rouletabille que mon Jean ne reverront cette Odette. » « Je ne serai tranquille, déclara férocement la pieuvre, que si vous me disiez qu'elle est morte. » Alors Calista haussa les épaules et fit avec un ricanement sinistre « Je vous dis que personne ne la reverra plus jamais. » Sur quoi elles se turent. Sitôt que l'on n'entendit plus rien sur le chemin, je bondis dans la grotte tout à fait déserte. L'ourson lui-même n'y était plus. Il faisait nuit noire là-dedans. Mais j'avais apporté ma petite lanterne sourde, et je me livrais à une perquisition minutieuse à laquelle je n'avais pas eu le temps de procéder lors de ma première visite, ayant été dérangé par un certain bruit venu du dehors. Comme je l'avais deviné, Calista avait emporté ses vêtements. Ce que je cherchais, c'était moins des objets que la trace du drame peut-être mortel qui s'était passé là. Les dernières paroles que j'avais entendues dans la bouche de Calista m'avaient rempli le cœur d'épouvante. Tout était possible avec une femme comme celle-là. « Votre Rouletabille, pas plus que mon Jean, ne reverront jamais cette Odette. » Je n'eus pas de peine, hélas, à trouver autour de moi les traces d'une lutte, d'une résistance certaine et même désespérée, et qui tout à coup avait cessé. Enfin, près du foyer, comme j'étais à 4 pattes, ma main trempa dans une petite flaque sombre et miroitante au feu de ma lumière. Du sang. Et dans ce sang, un couteau. Ils avaient tué Odette. Ah ! À ce moment, je ne pus retenir un cri de rage et un gros sanglot souleva ma poitrine. Et puis, tout à coup, j'éclatai de rire, d'un rire sauvage, insensé. Ce que j'avais pris pour du sang, c'était de l'encre. Et je découvris encore, près d'un escabeau renversé, un encrier brisé, une vieille plume en miettes. Maintenant, je comprenais certains silences de Calista succédant à certaines questions de la pieuvre, et je fus inondé d'allégresse. Non, non, rien n'était perdu. Il n'y avait pas de sang par terre, et il n'y avait que de l'encre sur le couteau. Et s'ils avaient dû tuer Odette, c'est là qu'ils l'auraient frappée, puisqu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour cela, le couteau et le silence. Ah, la courageuse petite Odette! Qu'avait-on voulu lui faire écrire, lui faire signer? Mais il n'y avait de sang nulle part. Ce n'était donc pas un cadavre que l'on avait transporté dans la roulotte, dont j'ai retrouvé les traces non loin de la grotte, et qui a rejoint la route d'Arles, au Sainte-Marie, où cette trace se perd avec celle de 100 autres roulottes retournant aux 4 coins du monde. Ai-je bien fait, ai-je mal fait, de ne pas donner alors l'éveil aux magistrats pour que l'on pourchassât tous les bohémiens revenant des Sainte-Marie? Qui dira jamais les affres d'une pareille responsabilité? Mais n'était-ce point avertir les fuyards que leur crime était découvert alors qu'il fallait surtout les surprendre? Avec leur astuce millénaire, ils avaient 100 tours dans leur sac avant de nous livrer Odette. Ne devais-je point considérer que le coup avait été fait quelques heures avant notre arrivée à Lavardan et que ces misérables avaient eu tout le temps de prendre leurs précautions? Non, non. J'avais eu raison de ne point me livrer à une poursuite des plus problématiques que les ravisseurs avaient certainement prévu. C'était par Callista que je devais avoir Odette, s'il en était temps encore. Et il en était encore temps, puisqu'elle était vivante. Mais Callista a bien tout fait pour que la pieuvre pût croire à sa mort. Ah, la pieuvre ! 2. Explication. Transporté d'une joie qu'il voulait faire aussitôt partager à Jean, Rouletabille courut au château. Il trouva son ami vautré sur un canapé, dormant tout habillé, d'un sommeil agité, plein de cauchemars. Il le réveilla brusquement. « Odette est vivante, j'en suis sûre !» L'autre le regardait, hagard. « Si tu en es aussi sûr que cela, pourquoi ne nous la ramènes-tu pas ?» Rouletabille reçut la phrase sans broncher. Il s'assit près de Jean, lui prit les deux mains et lui dit « Je vois qu'hier soir les paroles d'Hubert t'ont fortement impressionné. Maintenant, ce n'est plus Hubert qui est le misérable, c'est moi. Allons, Jean, regarde-moi et dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. » Jean ne put retenir ses larmes. « C'est vrai que je deviens insensé, » fit-il. « Mais pardonne-moi. Je ne sais plus de quel côté me retourner. Le désastre m'environne. Je ne crois plus à rien. » « Crois-tu toujours à l'amour ? J'en souffre trop pour ne pas y croire, » répondit le malheureux Jean. « Mais tu doutes de l'amitié ?» questionna tout bas Rouletabille. « Je te demande pardon, » répéta Jean en se cachant la tête dans les mains. « Allons, allons, Jean, je sais que depuis notre dernier voyage à Lavardan, tu as une mauvaise pensée contre moi. Une mauvaise pensée que tu as essayé de chasser, mais qui n'est jamais partie tout à fait. Et je vais te dire pourquoi elle n'est pas partie tout à fait. C'était à Paris. Un jour que je prenais congé de toi et de Callista, comme j'ai l'ouïe très fine, ce qui me dispense quelquefois d'écouter aux portes, j'ai entendu Callista qui te disait « Décidément, tu ne peux plus aller en Camargue sans que Rouletabille t'y accompagne. Voilà un pays qui a bien du charme pour les jeunes gens. » « C'est vrai, avoua Jean. Callista ne t'a jamais aimé et elle a tout fait, tout inventé pour me détacher de toi. Je te jure qu'elle n'y est pas parvenue. Embrassons-nous. » Ils s'étreignirent. « Maintenant, » fit Jean avec un soupir, « dis-moi ce que tu sais d'Odette. » Rouletabille lui raconta alors la découverte de la grotte, son dernier affût et la conversation qu'il avait surprise entre Callista et la pieuvre. « La pieuvre, toujours la pieuvre !» s'écria Jean. « Mon Dieu, t'avais-je assez averti ? Et elle connaissait Callista. Elles devaient s'entendre ensemble contre nous, déjà à Paris. » « Il y a bien des chances, en effet, » émit avec calme Rouletabille, « pour que Callista, qui s'entend assez bien à éveiller la jalousie... »« Ah, ne parlons pas de cela !» soupira Jean. « Je te demande seulement de détester désormais Madame de Méran comme je hais Callista, et nous ne nous en trouverons que mieux tous les deux, je t'assure. » « Alors, tu les as suivis ?»« Non. »« Tu n'as pas suivi Callista ?» s'écria Jean. « Parce que je sais où la retrouver, » répondit le reporter, après avoir entendu de pareilles paroles. « N'importait-il pas de savoir avant tout si Odette était morte ou vivante ?»« Et la grotte t'a appris cela ?»« Cela et beaucoup d'autres choses, mon cher Jean. » « Mais enfin, si je te comprends bien, la preuve de l'existence d'Odette me paraît bien précaire. Ils ont pu l'emporter pour la tuer ailleurs. »« Où ?» demanda Rouletabille en faisant rasseoir Jean qui s'était levé, les yeux agrandis par quelques visions d'horreur. « Où ? Mais ne dis-tu pas qu'ils l'ont transportée dans une roulotte ?» Et je le répète, ils l'ont tout d'abord, immédiatement après l'attentat, enlevé dans une auto, et cela dans le but de détourner les soupçons. Les bohémiens qui viennent au Sainte-Marie ne sont point accoutumés à rouler en auto. De l'auto, on a porté Odette dans la grotte, et de la grotte, on l'a transféré dans une roulotte. » J'entends bien, mais entends-moi, mon tour, Rouletabille. N'as-tu pas dit que cette roulotte avait rejoint la route d'Arles au Sainte-Marie, et cela dans la nuit où cette race maudite fêtait Sainte-Sarah ?
Un crime rituel ? Fit le reporter très calme.
Ne redoute pas cela, Jean. N'as-tu pas entendu comme moi le vieil Alary ? On ne sait pas ce qui se passe dans la crypte en cette nuit abominable.
Calme-toi, je t'en prie. Dans cet ordre d'idées, j'ai pensé en effet que tout était possible. Aussi, la première chose que j'ai faite en Camargue, ça a été de m'assurer que nous n'avions pas à envisager une aussi horrible hypothèse.
Tu sais ce qui s'est passé dans la crypte, toi ?
Oui, je le sais.
Mais comment ? Ne m'as-tu pas dit toi-même que tu n'as pu paraître au Sainte-Marie sans que l'on te mît en demeure d'en sortir ?
Aussi, je n'ai pas paru, mon cher Jean. Mais il suffit souvent que l'on me croie très loin pour que je sois tout près, tout près. Espérons que je serai bientôt près d'Odette. » ajouta-t-il avec un bon sourire et en prenant congé de Jean.
« Mais où vas-tu ? Je t'accompagne. »
« Non, dors. Voilà 48 heures que tu n'as pas dormi. »
« Et toi, pourrais-tu me dire combien de temps tu as dormi depuis 3 jours ?»
« Mais, mon cher, j'ai dormi tout mon sou. Tantôt un petit quart d'heure ici, tantôt une petite demi-heure là. Tu sais, moi, j'ai l'habitude. »
« Tu mens, Rouletabille, tu n'as pas fermé l'œil. »
« Eh bien, c'est vrai. Jusqu'à 7 heures, je n'en ai pas mené large. Mais maintenant, tu vas voir si j'ai retrouvé toute ma bonne humeur. Ce brave monsieur Crousillat et son épileptique greffier de Bartolas n'ont qu'à bien se tenir, et il va y avoir de quoi rire et s'amuser.
Laisse-moi te suivre, Rouletabille.
Non, répliqua le reporter, je veux que tu restes au vieil Castounou, ou tout au moins que tu ne t'en éloignes pas, parce qu'il faut que l'on sache où te trouver.
Qui ?
Quelqu'un qui assurément t'apportera des nouvelles d'Odette.
Mais tu es sorcier.
Peut-être. Adieu, Jean.
Jean le retint encore par un pan de son veston. Mais enfin, à moi, Rouletabille, à moi. Si vraiment tu sais qui est l'assassin, tu peux bien me dire son nom.
Le reporter, après avoir hésité un instant, se rapprocha de Santierne et lui murmura quelques mots à l'oreille. Après quoi, il s'envola, laissant Jean complètement abruti.
3. Le sommeil de Pandore.
Complicité ? Voilà le mot que se disait tout bas Rouletabille lorsqu'il se trouva dans la propriété d'Hubert après avoir sauté le mur qui séparait le vieil Castounou de la cabane, car les magistrats avaient condamné la porte mitoyenne. Jusqu'alors, il n'avait pas perdu une minute, courant à ce qu'il estimait le plus pressé. Mais, depuis la première heure, il avait pensé qu'une perquisition sérieuse chez Hubert, même non coupable, lui pourrait être de la plus grande utilité. Et puis, il avait eu ses raisons pour ne pas se presser. Le juge d'instruction, Monsieur Crousillat, poussé par son greffier Bartolas, qui avait une sainte horreur de Rouletabille en particulier et des journalistes en général, s'était opposé à ce qu'il pénétrât dans la maison. Les scellés avaient été apposés sur la porte de la pièce où l'on avait trouvé tant de charges contre cet Hubert que Rouletabille défendait à la stupéfaction de tous. De plus, M. Crousillat avait mis là 2 gendarmes qui avaient l'ordre formel de ne laisser approcher personne et de surveiller la maison. Une fois déjà, Rouletabille avait vu se dresser devant lui les 2 cerbères. Il n'avait pas insisté. Il voulait les laisser peu à peu se relâcher de leur garde. Enfin, il avait choisi, pour pénétrer chez Hubert, la première heure du jour, parce qu'il avait observé que le gendarme de veille, à ce moment-là, cédait à la fatigue et au sommeil. Bref, Trouvant le moment favorable, il fit le tour de la maison et arriva, sans être surpris, à un soupirail dans lequel il se glissa. 5 minutes plus tard, de soupirail en tabatière et de tabatière en œil de bœuf, il se trouvait dans le bureau d'Hubert. À travers la porte scellée, il entendit un ronflement sonore et régulier. C'était Pandore qui veillait. Sûr de n'être pas dérangé, Rouletabille se mit à fouiller les meubles avec la conscience qu'il mettait en toute chose. Un petit bureau secrétaire fut vidé de fond en comble de toutes les paperasses qu'il contenait, et chacune d'elles soigneusement examinée. Le fait que la justice avait passé par là ne décourageait en rien notre reporter, bien au contraire. Il avait accoutumé de dire que le parquet ne manquait jamais de lui faciliter l'ouvrage en lui abandonnant régulièrement tout ce qui pouvait intéresser l'affaire en cours et en emportant le reste. Cependant, ce matin-là, il ne trouvait rien qui concernât directement ou indirectement les événements qui avaient si tragiquement bouleversé tout ce coin de Camargue. Et il se demandait s'il ne venait pas de perdre son temps, quand, parmi les quelques livres qui s'alignaient sur les meubles et les étagères, il avisa un énorme bouquin dont l'aspect vétuste le surprit. Hubert n'avait rien d'un bibliophile. Sa bibliothèque se réduisait à fort peu de choses, et les derniers romans d'aventure, les relations de voyage, quelques revues de sport en faisaient tous les frais. Ce vénérable ouvrage, dont la reliure paraissait du reste avoir beaucoup souffert des ravages du temps, était une anomalie dans ce cadre moderne. Studio d'un art à la fois prétentieux et assez simple, que l'on rencontre à de nombreux exemplaires chez les jeunes gens qui tiennent à vivre dans un décor à la mode. La seule originalité de l'appartement tenait dans quelques objets assez rares rapportés de lointains voyages. Masques de bronze, dont le rictus sauvage surprenait le visiteur non encore averti, dépouilles de fauves qui pouvaient faire croire à de grandes chasses et qui avaient peut-être été achetées dans quelques bazars. Mais pourquoi ce livre chez Hubert? Rouletabille ne manqua point de le lui demander. Au livre. Et il eut bientôt entre les mains quelque chose qui ressemblait à un antiphonaire et qui n'était pas un antiphonaire. Il l'entr'ouvrit, et une sorte de couteau poignard s'en échappa et roula sur le plancher. Rouletabille se baissa, ramassa l'objet, et comprit que cette arme était moins une arme qu'un coupe-papier. De fait, le reporter constata qu'une page avait été coupée, c'est-à-dire fort proprement détachée à l'endroit même où le livre s'était ouvert. La page manquait. Et d'abord, quel était ce livre? Les caractères en étaient étranges, se rapprochant de la typographie grecque, byzantine et même slave. Rouletabille en reconnaissait certaines lettres. Il en avait vu de pareilles lors de son dernier voyage dans les Balkans, mais il était incapable de lire des mots entiers, ni surtout d'en saisir le sens. Tout de même, ce livre l'intéressait fort. Il devait être d'une grande valeur. Pourquoi l'avait-on mutilé? Et pourquoi en avait-on abîmé ainsi la couverture, qui présentait à l'œil et au toucher de véritables trous? Tout à l'heure, à première vue, Rouletabille avait mis toutes ces mutilations sur le compte du temps. Et maintenant, en examinant l'ouvrage de plus près, il s'apercevait qu'elles étaient relativement récentes. Le jeune homme mit le couteau poignard dans sa poche, une petite fiche de papier à l'endroit où le livre s'était ouvert, puis il le referma et considéra la reliure sous toutes ses faces. Il en tira rapidement cette conclusion qu'elle avait dû être incrustée de pierres d'un certain prix, car ce livre était riche. Il était à l'intérieur orné d'enluminures magnifiques, de culs de lampe d'un dessin assez barbare, mais du plus séduisant effet, le tout fort apprécié de collectionneurs. C'était certainement quelque livre rituel appartenant à une religion qui restait à déterminer. Soudain, comme son attention avait été attirée par la forme d'une dépression de la couverture qui avait dû certainement soutenir et enserrer la ferrure du milieu, Rouletabille fouilla fébrilement dans la poche intérieure de son veston et en tira le bijou qu'il avait trouvé chez Odette et qu'il avait jugé utile de s'approprier. Ce bijou, ou plutôt le motif central de ce pendentif, s'adaptait exactement aux traces de la ferrure sur le bouquin. Le signe fatal, la croix et le croissant, le signe sacré des bohémiens, fermaient autrefois le livre. « Ouf !» souffla Rouletabille. « Il se pourrait fort bien que ma petite promenade chez ce cher monsieur de Lauriac n'ait pas été tout à fait inutile. » 5 minutes plus tard, il avait quitté Loup-Cabanou sans avoir réveillé Pandore. À Arles, monsieur le conservateur de la bibliothèque municipale venait à peine d'arriver et n'avait pas encore eu le temps de sortir ses besicles de leur étui qu'il voyait venir à lui, en coup de vent, un jeune homme, fort essoufflé, portant une imposante serviette sous le bras, d'où il tirait, sans mot dire, un des plus vieux exemplaires de la bibliographie orthodoxe, qui fut jamais passé sous le nez de cet honorable fonctionnaire. « Monsieur le conservateur, lui dit le jeune homme, voici un petit objet que je désire soumettre à votre haute appréciation. Comme nul n'ignore votre inégalable compétence en tout ce qui concerne plus spécialement les langues orientales, je les lis toutes. Interrompit modestement monsieur le conservateur, et j'en parle quelques-unes. Eh bien, voilà qui tombe, on ne peut mieux. Vous allez me dire ce que vous pensez de mon petit agenda. » Monsieur le conservateur ne daigna même point sourire. Il était déjà en extase. Ses yeux grands ouverts derrière ses grosses lunettes, la course tremblante de ses bons gros doigts sur le précieux ouvrage, tout attestait chez lui son enthousiasme, qui, pour être concentré, n'en était pas moins immense. « C'est beau, hein ? » fit Rouletabille. Pas de réponse. Le reporter pouvait parler, monsieur le conservateur n'avait plus d'oreilles. Toute sa vie s'était réfugiée dans le regard et le toucher. « Eh bien, je vous écoute !» cria le reporter. Monsieur le conservateur lisait. Il avait commencé à la première page, et il venait seulement d'entamer la seconde, et il ne paraissait pas disposé à en sauter une ligne. Rouletabille s'assit, décidé à montrer, quoi qu'il lui en coûtât, de la patience et de la bonne volonté. Il savait que les savants ont leurs petites manies, et n'aiment point surtout être bousculés. Il attendrait, puisqu'il fallait attendre. D'autant que certains de ces messieurs, sous leur dehors d'enfantine naïveté, cachent quelquefois une malice diabolique et s'amusent autant qu'ils le peuvent, sans en avoir l'air, de la tête des gens. Cependant, monsieur le conservateur, après avoir lu la deuxième page, commença la troisième. Alors Rouletabille se leva, le plus tranquillement du monde, s'approcha doucement de monsieur le conservateur, sortit son énorme oignon de la poche de son gilet et le lui glissa sur la troisième page, à toucher le nez de monsieur le conservateur. Le fonctionnaire considéra un instant ce cadran comme une bête monstrueuse d'une espèce tout à fait inconnue, puis releva la tête et fixa sur le jeune homme un regard de sombre étonnement et d'inquiète interrogation. Ce regard semblait dire « Que me veut ce malotru ?» ou encore « Qui a permis à ce monsieur d'entrer ici sans frapper ?» Rouletabille envoya à l'adresse du savant son sourire le plus agréable. « Je voulais vous prévenir, monsieur, que ce livre a 400 pages, et je vous montrai ma montre pour vous rappeler qu'il est 9h30 du matin. À quelle heure, monsieur, comptez-vous avoir fini votre lecture ? J'ai quelques petites courses en ville. Quand dois-je revenir ?
Dans 8 jours, monsieur. Revenez dans 8 jours. Ce livre est une merveille, monsieur. Je veux le lire et le relire. Si j'étais assez riche pour vous l'acheter, vous ne le reverriez pas. Et moi, monsieur, s'il m'appartenait, je vous en ferais cadeau. Pour cette bonne parole, monsieur, que désirez-vous de moi? C'est un livre romané, n'est-ce pas? Je vois que vous vous y connaissez, jeune homme. Vous êtes sans doute de la partie? Non, monsieur, répondit Rouletabille, qui pour rien au monde n'eût avoué sa qualité de journaliste à un fonctionnaire, sachant que tous les fonctionnaires détestent par définition tous les journalistes. Non, monsieur, mais j'ai beaucoup voyagé, et je disais à mon ami à qui j'ai emprunté ce livre, « Je puis me tromper, mais il me semble bien que ce livre est un livre romané. » Et qu'a dit votre ami? Il m'a dit de venir vous trouver, monsieur. Et il a bien fait, monsieur. Oui, monsieur, ce livre est très ancien, et il est écrit dans la langue traditionnelle des Gitans. Mais voyez ce que l'on y trouve dès qu'on l'a ouvert. Je lis sur la couverture cette phrase curieuse. « Je traduis », fit monsieur le conservateur en assurant ses besicles. « Ceci est le livre des ancêtres. Quiconque respectera ce livre le sauvera s'il est en danger, le rapportera s'il est égaré, sera l'objet d'une désirable récompense. Et plus bas, quiconque le volera ou le détruira sera châtié et puni de mort. Bigre, fit Rouletabille, ils sont sévères, les ancêtres. Heureusement qu'ils sont morts avant celui qui les a volés. Votre ami a donc volé ce livre ? Demanda le bibliothécaire en regardant Rouletabille par-dessus ses lunettes. « Ouais, il a oublié de me le dire, » répliqua le reporter en riant de tout son cœur. « Mais entre nous, monsieur le conservateur, je crois qu'il en est bien capable. »« Vous avez de singuliers amis, monsieur, » laissa tomber l'honorable fonctionnaire en pinçant les lèvres. « Vous savez, monsieur le conservateur, mon ami est un bibliophile enragé, et la bibliophilie fait excuser bien des choses. »« Monsieur !» s'écria l'autre en devenant rouge-pourpre à l'énoncé d'apophtègme aussi dangereux pour la morale publique que pour la morale privée. « Monsieur, je ne crois pas qu'il y ait en France ou peut-être en Europe, j'oserais dire dans le monde entier, un bibliophile plus enragé que moi. Et cependant, je n'ai jamais volé personne, monsieur. » Et je le crois sans peine, monsieur, vous avez tout d'un honnête homme. Et quant à ce livre, j'en aurai le fin mot. Mon ami me dira d'où il le tient, d'où il vient, s'il se l'est honorablement approprié. Et s'il ne peut répondre décemment à toutes ces questions, je le menacerai de le dénoncer au procureur de la République. À moins qu'il n'en fasse cadeau à la bibliothèque d'Arles. » Du coup, on vit la physionomie de monsieur le bibliothécaire se détendre peu à peu jusqu'au sourire. Il tendit sa grosse patte à Rouletabille. « Vous êtes un homme d'esprit, monsieur. »« Vous en êtes un autre, » répliqua le reporter en lui secouant la main avec une effusion touchante. « Mais je ne suis pas un savant, moi. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce livre ?»« Des textes sacrés, monsieur, qui enseignent les rites usités pour la consécration des villes, des temples, des hôtels, des campements. » Parlant ainsi, il tournait les pages. « Voici un chapitre qui traite de l'art de prendre les augures, d'interroger l'avenir. » La race romanée a toujours été friande de ce genre d'exercice. Ce livre date certainement d'une époque où ce peuple nomade s'était enfin stabilisé pour quelques siècles dans le Proche-Orient. D'après ce que j'en puis imaginer à première vue, je ne serais pas étonné que nous ayons là, entre les mains, le livre rituel orthodoxe des Romanés qui se sont établis en Europe à la fuite d'Asie, et dont les descendants ont fondé le patriarcat de Transbalkanie. « Mais c'est fort intéressant tout ce que vous me dites là, monsieur le conservateur.
Ah, mon Dieu ! S'écria soudain le bibliothécaire, comme s'il venait de recevoir un coup douloureux en pleine poitrine.
« Quoi donc, monsieur ? Qu'y a-t-il ? »
« Eh bien, il y a qu'il manque une pierre à ce monument, je veux dire, une page à ce livre. Quel est le vandale ? Quel est le misérable qui a arraché cette page ? Et c'est d'autant plus regrettable, monsieur, que l'absence de cette page interrompt une prophétie des plus curieuses que je lis sur la page précédente. »
« Une prophétie ? » releva Rouletabille en cessant de plaisanter et en changeant soudain de visage, comme si une idée subite venait de traverser sa cervelle, toujours en travail. « Pourriez-vous me traduire le texte même de cette prophétie ?»«
Le voilà, en le serrant au plus près. »
« En ce temps-là, une reine naîtra à la race, ayant sur l'épaule gauche le signe de la couronne. » Cet enfant sera né d'une bohémienne et d'un étranger, et sous son règne, la race retrouvera l'antique prospérité. »
Au fur et à mesure que le bibliothécaire lisait, la figure de Rouletabille s'éclairait d'une flamme extraordinaire. Monsieur le conservateur n'avait pas prononcé le dernier mot de la prophétie que le reporter n'était plus maître de son émotion.
« Maintenant je comprends, je comprends !» s'écriait-il, et il agitait sa casquette avec des gestes insensés.
« Devenez-vous fou ? » demanda le conservateur.
« Je pense bien que vous comprenez, puisque je traduis. »«
Ah, monsieur, ce n'est pas cela que je comprends, mais je comprends aussi ce que je ne comprenais pas. »«
Et moi, monsieur, je ne vous comprends pas. »
« Comprenez alors, monsieur le conservateur, que je comprends pourquoi j'ai été cambriolé. »
Et sans plus de cérémonie, Rouletabille arracha le précieux livre des mains du bibliothécaire. Celui-ci, effaré, sursauta en s'écriant
« Vous avez été cambriolé ? Vous ?»«
J'ai plutôt l'air d'un cambrioleur, hein, c'est ce que vous voulez dire. Eh bien, je vais reporter ce livre où je l'ai trouvé. Il brûle, il brûle. » « Ah, je ne tiens pas à être condamné à mort par les ancêtres, moi !»
Et Rouletabille parut s'envoler. Ne sachant plus ce qu'il faisait ni ce qu'il disait, monsieur le conservateur leva au plafond des bras désespérés et gémit « Oh, voleur !» Il lui semblait en effet qu'on venait de le voler lui-même. Cette merveille, aussitôt disparue qu'apparue, lui bouleversait l'âme. Il regrettait d'avoir laissé partir ce chef-d'œuvre, bien qu'il ne lui appartînt pas. Monsieur le bibliothécaire comprenait maintenant tous les crimes. Une heure plus tard, Rouletabille se retrouvait dans Loup-Cabanou sans avoir rencontré plus d'obstacles au retour qu'à l'aller. Il remit le livre des ancêtres à l'endroit exact où il l'avait trouvé, après avoir pris soin de replacer le couteau coupe-papier poignard à la page indiquée par la fiche qu'il y avait mise et qu'il fit disparaître. Et quand il en fut débarrassé, il murmura, le front gonflé de sa pensée en ébullition, « Oui, ce livre brûle. Ce livre est la clé de tout. C'est de lui que tout vient. C'est par lui que tout arrive. C'est vers lui que tendent tous les gestes, et c'est autour de lui que tournaient sans le savoir Hubert, Jean, Odette, Calista, Olagei, Rouletabille et même la pieuvre. Ce livre en sait long, plus long que nous tous, mais ce livre parlera. C'est lui qui me dira si Hubert est complice de Calista. Ce livre est un malheur et il nous a peut-être sauvés. »
Après ce petit monologue, Rouletabille se hissa hors du bureau par l'œil de bœuf. De l'œil de bœuf, il se laissa glisser dans l'office, de l'office. Cependant, dans le corridor, Pandore ronflait toujours. 4. L'enquête de Pandore. Pandore ne dut pas tarder à se réveiller, car quelques instants plus tard, et non loin de là, dans la campagne, on aperçut cet honorable représentant de la maréchaussée questionnant un petit berger.
on questionna le petit berger pour savoir ce que lui avait dit le gendarme. Le gendarme lui avait demandé s'il n'avait pas aperçu à la première heure du jour une bohémienne sortant de la forêt et se dirigeant vers un petit bosquet de tamaris qui bordait la route d'Arles à Lavardan. Le petit berger avait répondu « Je me trouvais moi-même sous les tamaris. La bohémienne y est venue et s'y est rencontrée avec un bohémien qui rôdait par là depuis quelques instants. Ils ont causé quelques minutes, puis la bohémienne est partie en disant « À cet après-midi, 3 heures, à la roche d'Ozoul. » Là-dessus, le gendarme avait quitté le petit berger en disant « Parfait, ça tient toujours. » Sans doute Pandore faisait-il une enquête ordonnée par le juge d'instruction, car on le vit une demi-heure plus tard, à Arles, questionner encore des gens qui bavardaient sur le pas de leur porte. Enfin, sur le coup de midi, il se présenta à l'étude de maître Camousse, notaire. L'étude de maître Camousse était sans contredit la première de la ville. De père en fils, les Camousse avaient dressé les contrats de mariage et recueilli les testaments des gens les plus huppés de la région. D'une honorabilité en quelque sorte héréditaire, les Camousse avaient vu passer dans leur coffre-fort des fortunes considérables dont ils avaient été longtemps les fidèles dépositaires. Enfin, on leur avait confié bien des secrets de famille, et leur conscience avait été au moins aussi fidèle que leur coffre. Les Camousse étaient depuis plus d'un siècle les notaires des Lavardans. « Je viens pour l'affaire de Lavardance !» déclara tout de suite le brigadier de gendarmerie en mettant son poing entre la porte et le chambranle, dans le moment même que le petit clerc se disposait à fermer l'étude. C'était l'heure où il ne restait plus dans la première pièce que messieurs les expéditionnaires, lesquels s'apprêtaient, tout travail suspendu, à déjeuner. « Tiens, un nouveau brigadier ?» fit le petit clerc en ouvrant la porte, malgré les protestations du personnel. Cependant, quand ces messieurs aperçurent un gendarme, ils firent silence, attendant les événements. « Petit drôle !» dit le gendarme au petit clerc. « Va me chercher ton patronne, et ne t'étreigne pas comme une limace !» Le clerc répondit que maître Camousse s'apprêtait à déjeuner, mais que le premier clerc ou le clerc liquidateur était encore là, et que s'il pouvait faire l'affaire... « Qu'est-ce je ne t'ai demandé pas tant de choses. Je veux voir maître Camousse en personne, et plus vite que ça, hein ?» À ce moment, maître Camousse, un homme respectable, dans la quarantaine, de figure un peu sanguine, encadré par des favoris poivre et sel, sortit de son cabinet, demanda des explications et fit entrer le gendarme chez lui. « Je vous suis envoyé par monsieur les juges d'instruction. »«
Le juge d'instruction ?» répéta le notaire ahuri.
« Oui, monsieur Crousillat lui-même, qui a de l'ouvrage par-dessus la tête avec cette histoire de Lavardance, et qui m'a chargé de l'aider dans son enquête, aidez-vous poser quelques petites questions. »«
Je vous écoute, brigadier. Asseyez-vous, je vous prie. »
Voilà des quoi il retourne. J'y viens pour l'affaire de Lavardance. Et monsieur le juge d'instruction désirerait savoir à quelle date monsieur de Lavardance a contracté mariage. Vous pouvez me répondre, hein? J'ai pensé, vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Monsieur, je n'ai rien à refuser à la justice de mon pays. Je me ferai même un devoir de l'aider dans la mesure de mes moyens, si je puis lui être utile en quelque chose, et pourvu naturellement que l'on ne me demande pas de violer le secret professionnel.
Comme il est juste, vous parlez bien.
Et vous, brigadier, vous avez dû apprendre à parler dans le Roussillon, si je ne m'abuse.
Monsieur les notaires, on ne peut rien vous cacher. Vous avez deviné, je suis né natif des environs de Perpignan, pour vous servir. Quant au secret professionnel, je sais ce que c'est en tant que gendarme,
et ce n'est pas moi qui vous demanderai jamais de trahir une j'ose qui a, si j'ose dire, une caractère sacré.
Je vous dis cela, brigadier, parce que, il n'y a guère plus d'une heure, un jeune homme s'est présenté à mon bureau, qui m'a justement posé des questions qui ne tendaient à rien de moins qu'à me faire oublier mes devoirs.
Oh, par exemple, un jeune homme ?
Oui, qui se dit journaliste, un nommé Rouletabille.
Rouletabille ? Rouletabille est venu ici et vous a posé des questions ?
J'ose dire, tout à fait indiscrète.
J'espérais bien que vous l'avez à la porte.
À peu près, parce que vous savez, dans notre profession, on conserve toujours des formes.
Ah, c'est un garçon qui ne manque pas de toupet. Il se prétend célèbre.
Moi, je n'en ai jamais entendu parler.
Vous ne lisez donc jamais les journaux ?
Le moins possible.
Voyez-vous, brigadier, où il n'y a rien dedans, où il y a quelque chose.
Quand il n'y a rien dedans, ça ne vaut pas la peine de les lire. Et quand il y a quelque chose, c'est toujours des crimes ou des catastrophes, c'est-à-dire des choses désagréables qu'il est préférable d'ignorer le plus longtemps possible.
Mais vous, vous me paraissez le connaître, ce Rouletabille.
Ah, monsieur les notaires, si je les connais, mais c'est une plaie, ces journalistes-là.
Monsieur Crousillat s'en méfiait comme aidé la peste.
Et moi, il n'aimait quitter bas. Il épie toutes mes démarches. J'ai pari qu'il est venu pour vous parler de cette affaire des Laverdances.
Vous avez gagné, brigadier. Mais lui, il a perdu. Il a perdu son temps.
Monsieur Crousillat, quand je lui raconterai cela, sera bien contente. Nous disions donc que monsieur de Laverdances a contracté mariage.
Tenez, fit le notaire en compulsant un dossier. Voici un extrait de l'acte de mariage, déposé au consulat de France à Odessa. Vous n'avez qu'à copier.
Le gendarme ne se le fit pas répéter deux fois.
C'est bien né ce que l'on m'avait dit. Il s'est marié à Odessa, à une jeune Française dont il avait eu une petite fille qui a été légitimée par l'acte même du mariage.
Attention, nous touchons là au secret professionnel, brigadier. Je ne puis raisonnablement refuser à la justice de mon pays de prendre connaissance d'une pièce qu'il lui serait peut-être difficile de se procurer maintenant.
Oui, c'était loin, Odessa, et il y a les bolcheviques.
Mais vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde sache que Mademoiselle de Lavardan est née avant le mariage de sa mère.
Comme il est juste, et ne craignez rien, ce n'est pas moi qui irai les dire à Rouletabille.
Vous m'avez compris, brigadier.
Ce n'est pas pour me vanter, mais tout le monde s'accorde à dire que je suis doué d'une assez belle intelligence. Maintenant, une chose encore, l'extrait de l'acte des naissances de l'enfant, vous l'avez peut-être, hein ?
Mon Dieu, non, répondit maître Camousse en fronçant légèrement les sourcils et en refermant son dossier.
Il n'est pas là-dedans, hein ?
Il n'est pas là-dedans.
C'est dommage, car l'indication du lieu de naissance de l'enfant, comme vous avez dû le remarquer, est des plus vagues sur l'acte de légitimisation. Et si nous avions cet extrait de l'acte de naissance, peut-être que...
Que quoi ? Interrogea le notaire, qui commençait à tapoter nerveusement le bois de son bureau.
Eh, mais peut-être qu'il nous serait facile alors de faire taire les mauvaises langues.
Quelles mauvaises langues ?
Eh, mais celles qui prétendent, par exemple, que cette Française n'était pas la véritable mère de la petite Odette.
Monsieur, fit le notaire en se levant, je n'ai jamais entendu dire une pareille chose, et je serais curieux de savoir dans quelle bouche vous l'avez entendue.
Eh, dans la bouche de quelqu'un qui est aussi curieux que vous, assurément. dans la bouche des les juges d'instruction elle-même, et je suis chargé de vous demander par cette honorable magistrate, qui est persuadée, entre parenthèses, que vous savez tout à fait à quoi vous en tenir là-dessus, si mademoiselle de Laverdance est bien la fille de madame de Laverdance.
« Monsieur le juge d'instruction ! » s'exclama maître Camus, qui était devenu cramoisi. « Vous a chargé de me demander cela, vous ?
Je vous l'ai juré sur mes galons. »
« Et moi, je vous jure que si j'avais été monsieur Crousillat, et si j'avais eu une pareille question à poser à maître Camus, j'aurais fait venir maître Camus à mon cabinet, et j'aurais eu avec lui une conversation de magistrat à magistrat, et je ne lui aurais pas envoyé un brigadier de gendarmerie. Du reste, j'y vais, » déclara le notaire en mettant son chapeau.
« Où allez-vous donc ?
Mais je vous accompagne. Je vais chez monsieur le juge d'instruction. »
Eh, j'irai bien et tout seul. Ne vous dérangez pas. Mon Dieu, comment vous vous monétez ? Comme vous vous monétez ? Vous n'êtes vrai soupolé. Moi, je vous pose des questions. Vous êtes libre de ne pas répondre. Que diable ! Le secret professionnel avant tout. Qu'il n'en soit plus parlé. Juste et ciel.
Mais le gendarme eut beau dire et beau faire, maître Camus tint à le suivre jusque chez monsieur Crousillat. Il fut aussi vite que lui dans l'escalier, aussi vite que lui dans la rue. Arrivé là, le brigadier consulta sa montre, un énorme oignon, et déclara qu'il avait une course urgente à faire, qu'il laisserait maître Camus aller chez le juge d'instruction tout seul. Et déjà, il avait fait quelques pas rapides, quand deux personnages en civil, sortant d'on ne sait où, se jetèrent sur le gendarme en s'écriant « Pas de résistance, et veuillez nous suivre !»«
Mais qui êtes-vous donc ? » cria le notaire aux deux civils.
« Nous sommes deux agents de la sûreté, maître Camus, chargé d'arrêter Rouletabille. »«
Comment ? Ce gendarme ? » ?»«
C'est Rouletabille !» Maître Camus, suffoqué, dut s'appuyer à un mur pour ne pas glisser sur le pavé. On l'entendit qui murmurait
« Voilà certainement le plus gros événement de ma vie !»
Pendant ce temps, de toutes parts on accourait pour voir passer ce gendarme, prisonnier de ses deux civils. Et Rouletabille faisait une tête. Évidemment, cette dernière scène de la petite comédie qu'il venait de jouer, avec tant de désinvoltures, ne figurait pas au programme. Du coup, il en avait perdu son accent du Roussillon. Et c'est avec la prononciation un peu traînante et grasseyante des habitants du faubourg Poissonnière qu'il demanda
« Vous me conduisez au dépôt ?»«
Non, mon garçon, nous vous conduisons à monsieur Crousillat. »
« Ah bien, je suis tranquille, » conclut Rouletabille. « On s'en va au café. »
Tous se mirent à rire, les agents et la petite troupe qui leur faisait escorte. Monsieur Crousillat, certainement le plus fort juge d'instruction de France et de Navarre, tout au moins par la corpulence, était bien connu pour être doué d'une soif inextinguible. Le moindre effort physique, et même intellectuel, le mettait en nage. Aussi le voyait-on le plus souvent poursuivre ses enquêtes à l'ombre des terrasses des brasseries, entre deux demi servis bien frais et sans faux col. Manière de procéder qui, du reste, vouait à une humeur massacrante son greffier, le petit Bartolas, maigre et jaune comme un citron, dont l'estomac délabré ne pouvait souffrir que la camomille familiale. Comme cette fin d'aventure mettait en somme beaucoup de gaieté autour de lui, Rouletabille n'était pas d'un caractère à faire longtemps bande à part. Il se mit bientôt à l'unisson et se prit à rire lui aussi. Au bout du compte, n'était-il pas arrivé à ce qu'il voulait, à ce qu'il voulait savoir? Ce brave maître Camus pouvait-il lui en dire davantage? Et l'émotion qu'il avait laissée transparaître devant la dernière question intentionnellement brutale du faux Pandore,
Mademoiselle Odette de Lavardan est-elle bien la fille de Madame de Lavardan? Ne l'avait-elle pas suffisamment renseignée? En tout cas, l'attitude du notaire de la famille permettait maintenant à Rouletabille d'imaginer beaucoup de choses après la lecture, ou plutôt la traduction, qui lui avait été faite du livre des ancêtres, et de donner au drame qui avait pour centre la jeune Odette une ampleur que jusqu'alors il était le seul à soupçonner. 5. Rouletabille raconte des histoires. Le juge et son greffier ne doivent pas être à prendre avec des pincettes, demanda-t-il aux agents.
Avouez, monsieur Rouletabille, qu'il y a de quoi, répondit l'un d'eux.
Le plus enragé est encore Lou Finetto, fit entendre l'autre. Il crie comme un putois.
Ah, Lou Finetto crie comme un putois. Et qui donc est Lou Finetto, mon ami?
C'est un surnom de par ici, comme qui dirait la Finette, que l'on a donné au gendarme que vous avez si prestement soulagé de sa tunique et de son képi.
Il s'était arrangé avec ce képi et cette tunique, un si doux et si molle oreiller, ce brave la Finette,
reprit Rouletabille avec toute sa bonne humeur retrouvée, que j'ai eu bien des remords sur le moment à l'en priver, ce que j'ai fait, du reste, le plus délicatement possible pour ne pas le troubler dans ses rêves. Mais que voulez-vous, les affaires sont les affaires. Pourquoi la Finette s'est-il réveillée si tôt? Tout est de sa faute. Il eut dormi une heure de plus que je le lui aurais rendu, son oreiller, et ainsi il ne se serait aperçu de rien. Alors vraiment, il vocifère, ce brave la Finette. Eh bien, quand il aura fini de crier, il se taira. Il ne pense tout de même pas me faire condamner aux travaux forcés à perpétuité.
Oh, monsieur Rouletabille, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. C'est grave de soustraire un uniforme de gendarme.
Sachez, mon ami, qu'il n'y a rien de grave dans la vie, fit Rouletabille, philosophe. Rien de grave dans la vie que la mort. Et encore, nous ne sommes plus là pour nous en apercevoir.
En devisant de la sorte, la petite troupe était arrivée au bureau de M. Crousillat, qui était, comme l'avait prévu le reporter, une fraîche terrasse de café où ces messieurs du parquet se répandaient en propos injurieux sur le compte de la presse en général et de Rouletabille en particulier, quand ce dernier parut, encadré comme l'on sait.
« Le voilà !»
aboya le petit Bartolas en laissant envoler tous ses papiers qu'il avait étalés devant lui sur un guéridon de zinc.
« Ah, vous voilà, vous !» glapit maître Grousillat après avoir toutefois pris le temps de vider le demi qu'on venait de lui apporter.
« Mon Dieu, oui ! Coucou, le voilà !»
fit Rouletabille avec un modeste sourire.
« Comment ça va ce matin, monsieur Grousillat ? Et vous, monsieur Bartolas ?
Ce cher monsieur Bartolas, je vois à sa mine qu'il a eu tort de dîner encore hier soir au champagne. »
Le greffier eut comme un accès d'épilepsie. Haut comme une botte, il se dressa sur la pointe des pieds pour mettre son poing sous le nez du reporter, en lui prédisant la plus sinistre fin.
« Avez-vous prévenu des Blairs ? » demanda tranquillement Rouletabille. À ce moment, on entendit des cris forcenés et l'on vit apparaître à la fenêtre du bistrot un homme en bras de chemise qui écumait littéralement.
« Ah, voilà ce bon la Finette ! Il ne manquait plus que lui à cette petite fête !
Mais oui, je comprends très bien que vous ne soyez pas content, et je vous présente toutes mes excuses, monsieur la Finette. Du reste, je serais malvenu de ne pas avouer mes torts. Ce que j'ai fait est très mal, et je vous promets, monsieur le juge d'instruction, de ne plus recommencer jamais. Je ne suis pas têtu, moi.
Mais oui, j'ai été un peu loin. C'est le métier qui veut ça.
Savez-vous où il vous conduira, votre métier ? Commença maître Grousillat en faisant taire d'un geste terrible tout le monde.
Oui, monsieur le juge, à vous empêcher de faire une bêtise.
Monsieur!
Monsieur, je vous demande pardon. Je n'ai certes pas voulu vous manquer de respect. Je voulais dire que mon métier, dont vous avez une si mauvaise opinion, pourrait bien vous empêcher de commettre une erreur. Et quand il s'agit de la tête d'un homme, n'est-ce pas, cela vaut bien, en échange, que l'on excuse ce pauvre Rouletabille d'avoir joué un bien vilain tour à ce brave monsieur Lafinette. Oh, monsieur, vous ne m'attendrirez pas. Et je vous dis, moi, que votre métier va vous mener en prison d'abord, en correctionnel ensuite.
Bon, fit tranquillement le reporter, je vois que c'est une idée fixe, je n'insiste pas. Garçon, un boc.
Et il s'assit.
Il est à tuer,
fit la voix de Crécelle de monsieur Bartholas. Vous, mon ami, déclara Rouletabille en le regardant de son air le plus glacé. Il faudra soigner ça. Vous avez tout de l'assassin. Quant à vous, monsieur Grousillat, qui êtes le plus raisonnable ici, car enfin, avec les points dont la généreuse nature vous a doué, si vous aviez au cœur le quart de la rage qui étouffe monsieur Bartholas, vous auriez pu saluer mon arrivée d'une chiquenaude, et il ne serait plus question de rien que de mon épitaphe. Mais généralement, les hommes forts sont bons. C'est donc pour vous que je veux raconter cette petite histoire. Notre métier, s'il est utile, comme je me fais fort de vous le démontrer avant que Phoebus ait achevé sa carrière, n'est pas toujours rigolo. Aussi, autant que possible, quand l'occasion s'en présente, nous essayons de le rendre drôle. Il est drôle, par exemple, quand un assassinat a été commis dans une maison et que la concierge a juré de ne rien dire aux journalistes, de se présenter avec un coupe-fil de la préfecture, de se faire passer pour un agent de la sûreté et de tirer de la pipelette des renseignements qui nous feront trouver l'assassin dans un endroit où la police n'aurait jamais imaginé de mettre les pieds. Ceci m'est arrivé à moi, monsieur, personnellement. Et la police, qui est bonne fille après tout, et avec laquelle le plus souvent nous faisons bon ménage, me l'a pardonné. Mais il y avait un haut fonctionnaire qui a voulu faire des chichis. Un homme pour qui le résultat n'est rien, pour qui la forme est tout. Il a voulu s'attaquer à Rouletabille, grand reporter. Il faut croire que Rouletabille a l'oreille des dieux, car ce haut fonctionnaire a été précipité du haut de sa superbe. Et maintenant, il plante ses choux. Aimez-vous les choux, monsieur Grousillat ? Une autre histoire. Un jour, je devais rejoindre le ministre de la Marine qui faisait le long des côtes une tournée de défense mobile. J'arrivais en retard pour la grande revue et je trouvais tout consigné. Ma carte de journaliste ne me servait de rien. En désespoir de cause, j'allais trouver le sous-préfet qui était en train de se mettre sur son 31 et qui me fit recevoir par son valet de chambre comme un chien dans un jeu de quilles. On me laissa seul, sans plus s'occuper de moi. Tout à coup, j'aperçus sur son siège la tenue de gala que le domestique y avait laissée. J'entrai dedans comme un rat dans un trou. Je sautai dans une voiture, je me fis conduire au port. 10 minutes plus tard, j'étais rendu auprès du ministre avec tous les honneurs dus à mon rang. Que dites-vous de ça? Un habit de sous-préfet, ça vaut bien un uniforme de gendarme. Eh bien, quand il m'a vu dans cet attirail, le ministre, qui était parisien ou qu'il était devenu depuis qu'il était ministre, a ri. Mais le sous-préfet, lui, a eu tort de ne pas rire. Il a porté plainte. Plainte en règle. Eh bien, aujourd'hui, monsieur, ce sous-préfet, il est toujours sous-préfet. Monsieur Grousillat, croyez-moi, tel que vous voilà bâti, vous ne mourrez que dans la peau d'un président à la cour de cassation. Monsieur Grousillat, qui à la première histoire avait commencé de se gratter le crâne d'un air assez préoccupé, se mit franchement à rire à la seconde. « Allons, fit-il, allez-vous-en, et qu'on ne vous y reprenne plus. » Rouletabille bondit sur ses pieds, consulta sa montre,
poussa une sourde exclamation « Je vais être en retard !» et détala comme un lièvre. Aussitôt, les clameurs de la Finette reprirent de plus belle, et M. Crousillat jeta un cri désespéré « Rendez-nous au moins l'uniforme !» 6. Un coup de théâtre. Il était plus de 2h30 quand Rouletabille avait quitté si précipitamment la compagnie de M. Crousillat. Il était près de 6h quand il réapparut à Lavardan. Son carnet ne porte aucune indication sur la manière dont il employa ces 3 heures. Mais les propos du petit berger au faux gendarme La Finette nous permettent facilement d'imaginer qu'il y eut cet après-midi à la Roche d'Ozoul 2 oreilles et 2 yeux sur lesquels on ne comptait certainement pas. Nous retrouvons donc Rouletabille à Lavardan. Comme toujours, il paraissait fort pressé. Il pénétra hâtivement dans le vieil Castounou, bondit dans le vestibule, gravit 4 à 4 les degrés de l'escalier qui conduisait au premier étage, bouscula quelque peu des gens en deuil, vagues parents de M. de Lavardan qui surveillaient l'héritage depuis la disparition d'Odette, et finalement trouva celle qu'il cherchait, c'est-à-dire la femme de chambre, qu'il poussa dans un petit cabinet dont il referma vivement la porte sur eux deux. Estève ne pouvait plus voir maintenant Rouletabille sans se mettre à trembler comme une feuille. Elle joignit les mains et lui dit « Monsieur, je vous jure que je vous ai tout dit. » « Écoute, » fit Rouletabille en lui abaissant les mains, « je vais te poser une question à laquelle il ne sera pas difficile de me répondre. » mais qui a une importance que tu ne soupçonnes pas. « Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être encore ?» gémit la pauvre Estève. « Tu vas me dire, » fit Rouletabille penché sur la femme de chambre qui le fixait avec un effroi grandissant. « Tu vas me dire, ne me regarde pas comme ça, c'est moins que rien ce que je vais te demander. » « Tu vas me dire si mademoiselle Odette a un signe sur l'épaule gauche. » « Un signe sur l'épaule gauche ?» répéta la soubrette en ouvrant des yeux énormes. « En voilà une question. »« Je ne te demande pas d'apprécier ma question, je te demande d'y répondre. A-t-elle un signe sur l'épaule gauche ?»« Bien sûr que non, qu'elle n'a pas de signe sur l'épaule gauche, ni sur l'épaule droite. »« Enfin, tu me comprends bien, » insista Rouletabille. « On a quelquefois sur la peau ce qu'on appelle... une tache de vin ou une envie. Tu l'as souvent déshabillée, ta petite maîtresse, tu aurais pu voir. Pêchère, si j'aurais pu voir, elle n'avait rien du tout, elle avait la peau aussi nette qu'un miroir. Pas une tache, rien? Non, que je vous dis. Pas même un petit grain de beauté, Caspitello? Elle était belle de bout en bout, mais de grain de beauté, non, elle n'en avait pas. « Tu ne me trompes pas. Tu n'as du reste aucune raison de me tromper. »« Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, qu'elle ait un grain ou qu'elle n'en ait pas ?»« Bien, » fit Rouletabille pensif, « c'est tout ce que je voulais savoir. » Et il la quitta brusquement, comme toujours. « C'est lui qui a un grain !» murmura Estève derrière lui. Le reporter venait de quitter le château et entrait dans le petit bourg de Lavardan, quand il aperçut Jean qui se dirigeait vers la grille du vieil Castounou. Il l'appela, aussitôt Jean courut à lui. « Je te retrouve !» s'écria Jean. « Tu te rappelles ce que tu m'avais dit ?»« Quoi donc ? Que j'aurais des nouvelles d'Odette. »« En effet, je me souviens de t'avoir dit quelque chose comme ça. »« Eh bien, figure-toi que j'ai fait une rencontre extraordinaire. Je me trouvais dans la campagne, à 2 pas d'ici. » Je ne m'étais pas trop éloigné du Castounou, puisque tu me l'avais recommandé. Et alors ? Et alors, je m'étais assis sur un talus, pensant à tout ce que tu m'avais dit, assez triste du reste, malgré tes encouragements, et me demandant comment tu pouvais parler avec tant d'assurance d'une affaire qui m'apparaît de plus en plus obscure, de plus en plus atrocement mystérieuse, et où je trouve... sans en soupçonner la raison, tant de gens ligués contre nous.
quand je vois arriver une petite gamine, couverte de haillons, une petite bohémienne certainement, qui portait des paniers et un fagot de sion d'osier. Elle regarda autour d'elle, comme si elle voulait s'assurer qu'elle n'était vue de personne. Et puis, se penchant sur moi, elle me dit « Vous êtes bien, monsieur Jean ?»«
Oui, fis-je, que me veux-tu »
Elle répondit à ma question en m'en posant une autre. « Seriez-vous bien aise, me dit-elle, d'avoir des nouvelles de la demoiselle ?»«
Tu penses l'effet que me produisirent ces paroles, surtout après ce que tu m'avais dit. »
« Mais certainement, lui fis-je, j'en serais très heureux. »
Elle regarda encore autour d'elle.
« Surtout ne dites jamais que vous m'avez vu, car il me tuerait. »
Je la rassurai.
« Eh bien, me jeta-t-elle tout bas, quelqu'un peut vous renseigner. Allez... »«
Allez à 7 heures, » interrompit Rouletabille. « Allez à 7 heures au plan des roseaux. »«
Comment ?» s'exclama Jean médusé.
« Tu le sais ? Ne dois-je pas tout savoir ?»
Et elle s'est éloignée en me recommandant d'y aller tout seul, faute de quoi je ne rencontrerai personne.
« Je le pense bien.
Puisque tu savais que l'on me fixait ce rendez-vous, tu étais venu pour aller avec moi ?
Jamais de la vie. Je ne veux pas te faire rater ton rendez-vous, moi. Tu dois y aller tout seul. Vas-y tout seul.
Et tu n'as pas d'autres recommandations à me faire ?
« Aucune.
Ah, si, je te recommande de ne pas perdre un mot de ce qu'on te dira.
Adieu, Jean, et bonne chance. »
Jean regardait sa montre.
« J'y vais, » fit-il. « Ce n'est pas tout près, le plan des roseaux, et je veux y aller à pied pour n'éveiller l'attention de personne. »
« Eh bien, va, et bonne chance. Pendant que tu seras là-bas, je ne perdrai pas mon temps ici, je te le promets. »
« Je te retrouve au vieil Castounou. »«
Mais va donc, bavard, tu n'es pas curieux de savoir où est Odette ?»
Jean le quitta aussitôt. Rouletabille prit un chemin opposé. Il paraissait très préoccupé, quand, en passant devant un café de Lavardan, son attention fut attirée par un bruit de voix, celle du juge d'instruction et de son greffier qui était chez le bistrot. Le reporter avança encore la tête, et dans le fond de l'établissement, sous une tonnelle, il aperçut les gendarmes attablés devant une bouteille, et parmi eux, la finette leur racontait comment cette canalia de journaliste lui avait fait rapporter sa tunique et son képi avec tous ses remerciements. « Eh bien, la prochaine fois qu'il m'est tombé sous la main, vous verrez moi si j'ai les remerciements tirés. »
Rouletabille vit encore ici la bicyclette de M. Crousillat, appuyée contre le trottoir. Cette découverte sembla tout à fait déterminer son action. Il se rapprocha de la bécane, l'enjamba, et sans se cacher, dans le moment même que M. Crousillat sortait du café pour venir s'asseoir sur la terrasse, il se mit à pédaler, pédaler.
« Ma bicyclette !» hurla le juge. « Oh ! Cette fois, il exagère !»
Et il appela les gendarmes, qui, eux aussi, avaient leur bicyclette, et se mirent à la poursuite de Rouletabille en poussant des clameurs de forcenés. Quant aux reporters, ils s'étaient retournés et leur faisaient des petits signes d'amitié, s'amusant à ralentir son allure quand il avait trop d'avance. Bref, semblait prendre un plaisir extrême à voir se dérouler derrière lui ce cortège peu banal de gendarmes glapissant et gesticulant comme des fous. Naturellement, le plus excité de tous était la finette, qui criait
« T'es, cette fois, il ne m'échappera pas !»
Rouletabille lui envoyait des baisers. À 7 heures tapant, Jean pénétrait dans le plan des roseaux. C'était un de ces terrains, si l'on peut donner le nom de terrain à un sol trop souvent mouvant, et qui, au moment où vous vous y attendez le moins, se dérobe sous le pied. Situé entre le fleuve et les digues, et qui sont d'autant plus dangereux en cette saison qu'ils verdissent comme une honnête prairie et attirent par leur fraîcheur. Le plan était comme entouré par un cercle de très hauts roseaux dont le pied plongeait dans les marécages. L'endroit n'était pas pour faire peur à Jean, qui connaissait la Camargue dans toute sa grâce et dans toute sa traîtrise. Du reste, la pensée du jeune homme tenait toute dans cette phrase « avoir des nouvelles d'Odette ». La première chose qu'il aperçut fut la petite bohémienne, qui, après lui avoir adressé un signe de tête amical, disparut sans que le jeune homme s'en préoccupât davantage. Il avançait toujours. Un grand silence l'entourait, et cette solitude, tout de même, commençait à l'impressionner. Quand soudain, devant lui, les roseaux s'écartèrent, et il vit sortir de derrière ce rideau une autre figure de bohémienne qu'il ne reconnut pas tout d'abord. Alors la femme fit encore quelques pas, lui planta dans les yeux son regard de flamme.
« Calista ! »
fit-il en reculant instinctivement.
« Toi, dans ce costume ?»«
Oui, c'est moi, » fit l'autre en le bravant. « Pourquoi t'étonnes-tu ? Ne suis-je pas une romanée ? Si je l'avais oubliée, n'as-tu pas tout fait pour m'en faire souvenir ? Tu m'avais prise sur la route. J'y retourne, puisque tu m'y rejettes. Seulement avant de partir, j'ai voulu te revoir une dernière fois, mon amour. » Et elle éclata d'un rire sauvage. Jean avait en face de lui quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais soupçonné. Cette Calista avait toujours été avec lui ou nonchalante, ou tendre, ou simplement boudeuse, ou de temps à autre naïvement orgueilleuse, comme une enfant superbement gâtée. Et maintenant, il avait devant lui la haine. Ah, il n'eut pas besoin de la regarder deux fois pour comprendre que tous ses malheurs venaient d'elle. Et son cœur, à lui aussi, se remplit d'un sentiment farouche. Il lui saisit brutalement le poignet à la faire crier.
« Odette, qu'as-tu fait d'Odette ?»
Elle se tordait sous son étreinte, mais continuait son rire effroyable. Elle répéta
« Odette, qu'est-ce que c'est que ça, Odette ? Qui est-ce qui a vu Odette ? Monsieur cherche Odette !»
Plus que des injures, cette raillerie féroce déchaîna la fureur de Jean, qui se prit à secouer cette femme à la briser. Alors elle s'écria, écumante,
« Eh bien oui, c'est vrai, ton Odette, c'est moi qui te l'ai prise, et tu ne la reverras jamais, 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 jamais !»
À chacun de ces affreux « jamais » qui étaient pour lui comme autant de coups de poignard, Jean ne répondait plus. Frappé comme une brute cette femme qu'il avait tenue dans ses bras, et qu'il aurait voulu voir morte pour ne plus l'entendre. Mais, à chacun de ses coups, l'autre semblait reprendre des forces pour le faire souffrir davantage, et ainsi se déchiraient-ils tous les deux, quand tout à coup, Jean chancela, glissa sur les genoux. Il lui parut que quelque animal féroce, quelque chose comme un lion, lui était tombé sur les épaules, car en même temps qu'il s'effondrait sous cette ruée, une sorte de rugissement avait éclaté derrière lui. Et Calista, maintenant, se taisait, pendant que Jean et Andrea, liés d'une étreinte forcenée, semblaient avoir juré de mourir étouffés dans les bras l'un de l'autre. Dans leur soubresaut, ils s'étaient rapprochés du miroir d'eau que l'on voyait briller entre les hautes tiges des roseaux. Les deux corps y roulaient, dans l'espoir qui animait chacun d'eux d'y faire glisser l'autre. Calista, haletante, était penchée sur eux. Jean, finalement, avait le dessous. Calista poussa un cri au moment où il allait être précipité, et l'on n'eût pu dire si c'était un cri de triomphe ou de douleur. Mais alors que tout semblait devoir se terminer par le dénouement le plus tragique, la scène changea de face. Un nouveau personnage bondissait dans l'arène. C'était Rouletabille. Il fit entendre un sifflement aigu, et aussitôt toute une petite troupe de gendarmes surgissait, et, se jetant sur Andrea et Calista, les faisait prisonniers. La surprise des deux bohémiens était telle qu'ils se laissèrent mettre les menottes sans protestation.
« Eh bien, » fit Rouletabille à Jean, « je crois qu'il était temps que j'arrive, hein ?»«
Toi,
Tu arrives toujours au bon moment, répondit Jean à Rouletabille en l'embrassant.